avec Stéphane. J'ai alors d'un point de vue professionnel, je suis directeur général actuellement de l'IRTS Montrouge Neuilly-sur-Marne. L'IRTS, c'est l'Institut Régional qui est le résultat d'une fusion que j'avais menée entre 1998 et 2003. Et là, en fait, j'ai repris du service depuis quelques mois pour des raisons internes, en fait. Et donc, ils forment des travailleurs sociaux, assistants de services sociaux, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés. Et en fait, on forme des certifications, c'est-à-dire au niveau des anciennes AMP, qui sont maintenant les AES, jusqu'en fait au Master 1, Master 2, autour, en fait, notamment des fonctions, entre autres, de direction, mais pas uniquement sur ces diplômes-là. On a en fait des partenariats assez forts avec Paris 13, et on a des partenariats également avec Évry, et aujourd'hui aussi avec Paris Dauphine. Paris Dauphine, où je suis enseignant, en fait, je suis ingénieur pédagogique, ce qui fait que j'ai un peu de travail en ce moment, puisque je suis à la fois à Dauphine pour l'enseignement et à la fois à l'IRTS pour la partie plus opérationnelle, on va dire. À Dauphine, j'enseigne la sociologie. En fait, à la base, moi, je suis économiste et j'ai un doctorat de sociologie. Et en fait, j'enseigne la sociologie des organisations, vous vous en doutez, la sociologie des professions et puis tout ce qui a à voir avec l'économie sociale et solidaire. Donc, je suis un des rares, en fait, à aborder ce point-là, en fait, sur Dauphine. Il n'y en a pas beaucoup. Et aujourd'hui, en fait, je le fais sur certaines formations. Les formations, en fait, dans lesquelles je suis associé à Dauphine, c'est principalement. Concernant les paramédicaux et d'autre part les formations qui concernent aussi les travailleurs sociaux. Donc si vous voulez, je reste à peu près dans cette espèce d'ensemble santé sociale. CAFER8, oui, on en a sur l'IRTS. Donc on l'a et puis il est même assez largement, comment dire. Il y a beaucoup de monde en fait qui vient puisqu'on doit avoir une quarantaine d'étudiants. D'un point de vue en fait associatif, je suis président en fait de l'association Agir, qui est une association qui existe depuis 20-25 ans. En fait, Agir, c'est aide aux jeunes handicapés pour une insertion réussie. J'ai pas voulu, quand on a changé le nom, j'ai pas voulu aller jusqu'à inclusion. Je trouvais que ça faisait un peu trop mode à l'époque. Maintenant, je m'en veux un peu parce que je trouve que finalement, c'était pas si mal. Mais bon, j'ai un peu résisté. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Agir? En fait, c'est une association qui s'occupe au travers de trois CESAD et d'une halte-garderie, en fait, d'enfants en situation de handicap mental, déficient intellectuel léger, sans trouble du comportement.
Un CESAD, c'est quoi?
Un CESAD, c'est en fait les services de soins à domicile, donc qui s'occupent suivant les agréments, mais d'enfants entre 3-4 ans jusqu'à 16 ans. On a deux CESAD, en fait, qui sont sur ces populations-là. Et on a un CESAD qui s'occupe, lui, plus de la partie, je dirais, pré-professionnelle, donc de 14 à 20 ans, qui permet en fait de suivre les jeunes en fait sur leur projet professionnel, ce qui est une chose qui n'est pas du tout évidente, je ne vous le cache pas, mais qui est très intéressante parce qu'en fait, si vous voulez, je dirais que la réflexion que je vais essayer de vous livrer aujourd'hui, qui est vraiment qu'une réflexion, en fait, elle est très liée en fait à ces jeunes-là, en fait, parce que, si vous voulez, j'ai le sentiment que, en gros, alors, c'est un truisme, hein, ce que je veux dire, c'est une banalité, mais j'ai quand même le sentiment qu'on ne les écoute pas beaucoup, alors que je pense qu'ils ont quand même pas mal de choses à dire, et qu'ils peuvent avoir en fait un discours très très construit. Et je parle de handicap léger, c'est vrai qu'il y a des niveaux de handicap. En fait, ce que je vais essayer de défendre aussi là, c'est qu'il y a des niveaux, et que peut-être en fait, il y a une espèce de continuité, c'est sur cette continuité-là en fait que j'aimerais un peu discuter. Par ailleurs, je suis aussi membre, j'ai été, je crois, vice-président, mais je ne suis plus trop, des Papillons Blancs de Paris, qui est en fait un mouvement parental, donc orienté, très largement orienté vers le soutien, l'accompagnement, la défense d'un point de vue militant en fait des personnes en situation de handicap mental, avec peut-être des excès quelquefois, je pense notamment à l'intégration et justement à l'inclusion. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut essayer de, quand même, à mon avis, un petit peu nuancé quand même, ça me paraît important. Et puis par ailleurs, vous doutez que si je suis dans tout ça, c'est que j'y ai pas été tout à fait naturellement. En fait, c'est parce que j'ai en fait mon fils, et c'est pour ça que je suis sorti, vous m'en excuserez, donc est un jeune homme de 21 ans aujourd'hui, qui est déficient intellectuel léger. Voilà, donc si vous voulez, C'est un peu ça qui m'a amené, comme beaucoup de parents en fait, parce que je crois que les gens s'intéressent pas forcément très naturellement au handicap. C'est quand même un repoussoir, cette idée de handicap. Et en fait, moi, j'y suis arrivé par mon fils. En fait, je trouve que c'est intéressant aussi, et je lui suis presque reconnaissant de m'y avoir amené, parce que aujourd'hui, j'ai pratiquement l'essentiel de mon activité professionnelle qui est tournée autour de ça, bien que j'ai eu d'autres types d'activités que connaît très bien en fait Stéphane. Donc voilà, parce que je suis pas vraiment très linéaire d'un point de vue.
Mais qui sont passionnantes et qu'il faudrait rejoignent un de nos samedis qui partait du patrimoine.
Peut-être, oui, parce qu'il y aurait des choses à dire, il y aurait des choses très intéressantes à dire. Donc, si vous voulez, je parle un peu à plusieurs titres, et alors je reviens à l'intervention précédente, parce que effectivement, vous parliez de représentation du territoire tout à l'heure. En fait, moi, ma représentation de Saint-Vincent-de-Paul, c'est en fait le service des urgences, c'est le bâtiment Le Long, et c'est là en fait qu'était accueilli mon fils, quoi, parce que en problème annexe, il était épileptique, et donc on a passé des heures, et je me rappelle 2-3 séances très difficiles, en fait, là-bas, en fait, pour essayer de faire cesser des crises qui ne cessaient pas, en fait, qu'on n'arrivait pas en fait à rompre. Et c'était assez impressionnant, et ça faisait un petit peu peur, quand même, je ne le cache pas. En tant que père, ce n'était pas forcément très facile. Voilà, donc je parle un peu à tous ces titres-là. Alors c'est un petit peu un vrac, c'est un petit peu un ensemble. Je ne sais pas trop si c'est très cohérent, et je ne sais pas trop en fait si ça me donne une quelconque légitimité, si vous voulez, pour vous dire quelque chose. Du coup, en fait, moi, mon idée, c'est que, en fait, je ne vais pas vous exposer une recherche, je vais essayer de vous exposer un peu une réflexion qui est pas du tout quelque chose de très fondé, avec, je dirais, des travers, c'est-à-dire des travers qui sont à la fois, si vous voulez, un positionnement qui est plutôt un positionnement peut-être intellectuel, vraisemblablement éthique, et puis en même temps aussi peut-être idéologique. C'est-à-dire que, en fait, je ne suis pas forcément en dehors de l'objet que j'observe aujourd'hui, et en tout cas, j'y ai aussi un intérêt à pas mal de niveaux. Donc, si vous voulez, c'est un peu autour de ça que je voudrais discuter, et autour en fait de notions qui vont peut-être me permettre d'arriver en fait à la fin, si j'y arrive, de cet exposé. Alors, le premier point, ça va être de rendre à César ce qui lui appartient, simplement parce que je crois qu'il est dit dans le petit papier qu'a fait en fait Stéphane que j'avais. Je m'intéressais, en tout cas, je ne sais plus exactement comment sont les termes, mais
imaginez
le concept de diversité neurologique. J'aurais bien aimé, je dois te le dire, parce que je trouve que c'est une notion qui est intéressante, mais ce n'est pas de moi. Donc, je tiens quand même à le rendre à qui ça appartient. On va voir ça un peu au départ. En fait, je trouve l'idée de diversité neurologique, parce que je pense que ça amène à l'idée en fait de diversité. Alors, peut-être d'interculturel, je pense qu'on va peut-être pouvoir en discuter un petit peu après. C'est pas évident, parce que quand on parle de culture, on parle quand même de choses extrêmement, extrêmement structurées, à mon sens. Là, on n'est pas forcément toujours dans des choses très structurées, notamment sur la déficience intellectuelle. Simplement, en fait, moi, j'ai trouvé le concept intéressant. Pourquoi ? Parce que, en fait, juste avant, en réfléchissant un petit peu de là où je vous parle, donc vous voyez un petit peu peut-être plus précisément, moi, je parlais de déclinaisons différentes de l'être. Déclinaisons différentes de l'être, c'était quelque chose où j'essayais en fait de montrer en fait une diversité cognitive. C'est-à-dire que pour moi, il y a une diversité cognitive, pas forcément des niveaux de cognition, mais une diversité cognitive. Je pense que c'est important. C'est-à-dire pas une différence quantitative, mais une différence plutôt qualitative en fait dans les degrés. Et je trouve que c'était ça qui m'intéressait. Alors, déclinaisons différentes de l'être, c'est en fait l'idée que, après tout, il y avait des personnes, si vous voulez, qui étaient de couleurs différentes, de cultures différentes, de religions différentes. Alors pourquoi pas des personnes de cognitions différentes, quoi. Je me disais que c'était finalement, ou d'appréhension en fait de la réalité différente. C'est-à-dire que je ne vois pas en fait là, en fait en réalité je ne vois pas vraiment où est la différence en ce qui me concerne. Donc c'est peut-être un regard un petit peu particulier. L'idée en fait c'était vraiment de poser aussi un autre regard sur le handicap. Parce qu'en fait la déficience intellectuelle, bon, dans le cadre du handicap, c'est effectivement l'idée que on la confine finalement dans un cadre qui est celui en fait de l'absence, du manque et de la perte. C'est-à-dire le handicap, c'est l'absence, le manque, la perte. Donc je me disais aussi que on est très dans la défectologie quand même aussi en France. C'est-à-dire on voit toujours ce qui ne va pas et on ne voit pas en fait ce qui peut aller et on ne voit pas en fait les talents. Moi je crois beaucoup aux talents. Alors là aussi c'est une expression très imagée, mais je crois beaucoup aux talents. C'est-à-dire finalement, si on garde un jeune, même par exemple un jeune qui a des difficultés sociales, à mon sens, en fait, si on prend ce jeune-là, en fait, je pense qu'on doit pouvoir, à un moment donné, effectivement, aller un petit peu plus loin, si vous voulez, que ses difficultés, et voir ce qu'il peut faire, en fait. Et surfer un peu sur ce qu'il sait faire, et pas forcément toujours lui montrer que ça ne va pas. Pour moi, le handicap, ça fonctionne à peu près de la même manière. C'est-à-dire que ces jeunes, en fait, ont des compétences. Il faut peut-être les chercher un petit peu plus que la moyenne, en fait, des autres jeunes. Mais il me semble, en fait, qu'il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes. Le problème de mon idée de la déclinaison de l'être, c'est que c'est plutôt poétique, si vous voulez, c'est plutôt peut-être philosophique, je sais pas, c'est peut-être plutôt éthique, mais c'est pas très opérationnel, donc faut être clair. Mais finalement, bon, comme moi j'étais dans une réflexion assez libre et pas dans une recherche, je me suis dit que c'est pas forcément très très grave. L'idée aussi, si vous voulez, de cette déclinaison en fait de l'être, c'était aussi un regard sur l'altérité. C'est-à-dire que je crois que le handicap, c'est quelque chose qui peut choquer, en fait, jusqu'à un certain point, en tout cas, qui peut amener certaines formes d'interrogation. Et à mon sens, en fait, on devait ouvrir aussi, enfin, c'est l'idée d'un autre regard, en fait, d'une autre perception du handicap, en fait, en voyant ça sous l'angle de l'altérité, c'est-à-dire effectivement d'une différence qu'on pouvait à un moment donné, en fait, finalement, intégrer aussi soi et reprendre finalement pour soi. Donc, c'est un peu, si vous voulez, toutes ces réflexions-là que j'ai en tête depuis 21 ans que j'ai mon fils. C'est vrai qu'avant ça ne touchait pas plus que ça, et je crois comme beaucoup de gens, mais c'est vrai que du coup ça m'a fait un petit peu réfléchir là-dessus. Alors pour revenir à la diversité neurologique, en France c'est Brigitte Chamac qui en fait introduit cette notion, alors je ne sais pas si on peut dire concept, mais en tout cas cette notion de diversité neurologique. Brigitte Chamac est sociologue, ingénieure à l'INSERM et chercheur au CERMES 3 à Paris 5. Et donc, elle a développé ça en France dans différents articles. Et l'idée, en fait, du concept, bon, il y a un article un petit peu plus important que les autres, qui est le concept de neurodiversité ou l'éloge de la différence. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. En fait, elle explique qu'au travers des nombreux témoignages, en fait, alors, de personnes autistes, on a, en fait, finalement, fini par se structurer une espèce d'identité collective autiste aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a plusieurs autistes qui ont été un peu phares. Je pense notamment à Temple Grandin, qui a écrit plusieurs ouvrages, qui est autiste, qui explique par exemple comment à un moment donné, elle invente en fait une espèce de machine qui permet en fait de la compresser dans les moments en fait d'angoisse qu'elle peut avoir, d'angoisse très très forte. Et donc elle met en place en fait cette espèce de machine. Et en fait, Temple Grandin a un développement très très étonnant, parce qu'en fait, elle va faire évoluer de manière assez forte la cause animale aux États-Unis, notamment au travers en fait de la gestion des abattoirs, et notamment pour qu'il y ait un abattage un peu humain, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais en tout cas des animaux, parce qu'elle dit, moi j'ai un contact très direct avec ces animaux, et en fait je peux faire quelque chose en fait pour les aider. Donc Brigitte Chamac a vraiment développé en fait cette idée en France, avec par exemple en face de cette neurodiversité l'idée de représentation en fait cérébro-centrée. C'est-à-dire que effectivement on a en fait une vision cérébro-centrée, et notamment en fait l'idée que les autres ont une difficulté, nous ça va très bien. Et en fait, Brigitte Chamac s'est elle-même inspirée d'une sociologue, d'une chercheuse en sciences sociales, je crois qu'elle est sociologue nord-américaine, Judy Singer, qui elle en fait a vraiment, vraiment créé la notion en fait de neurodiversité. Et avec cette idée effectivement que, bah voilà, en fait, on pouvait penser la spécificité autistique, la spécificité des autistes, non pas en fait sous l'angle d'un manque, d'une absence, d'une difficulté en fait relationnelle avec les autres, mais qu'on pouvait à un moment donné effectivement le dégager du paradigme de la pathologie et en fait l'amener finalement à quelque chose qui était de l'ordre d'une manière en fait de voir, de percevoir, de sentir finalement original, c'est-à-dire quelque chose qui était différent des autres. Ce qui fait qu'on n'est plus du tout en fait dans l'idée d'un handicap, c'est-à-dire d'une perte, mais on est dans quelque chose qui est de l'ordre en fait d'une réalité différente. C'est-à-dire que on vit dans des espaces de cognition différentes, dans des espaces d'appréhension différents, et finalement dans quelque chose qui, d'une certaine manière, fonctionne pas de manière identique en fait au niveau intellectuel. cette notion au niveau des autistes, je trouve qu'elle est assez intéressante parce que assez vite, ça dédramatise aussi l'autisme jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que ça en donne une vision un petit peu différente. Et puis surtout, on va le sortir de la maladie, on le sort du handicap et on en fait quelque chose finalement de relativement valorisant, c'est-à-dire avec des autistes qui commencent à expliquer que finalement, ceux qui sont peut-être en difficulté, c'est ce qu'ils appellent les neurotypiques, c'est-à-dire les gens qui, à un moment donné, en fait, eux, voient les choses d'une certaine manière qui n'est pas forcément bonne. Et en fait, quand on prend certains cas en fait, d'autistes très, très performants, les Asperger, etc., on voit bien qu'il y a des difficultés quelquefois en fait, dans le relationnel, mais il n'y a pas forcément des difficultés en fait, intellectuelles, et il y a quelquefois en fait, même des performances qui sont tout à fait étonnantes. Et donc, cette vision finalement du handicap, que, comment dire, Judy Singer va développer autour de deux cas qui lui sont très proches, qui est celui de sa mère et celui de sa fille, va en fait effectivement montrer que on est dans cette idée de neurodiversité, dans quelque chose où aussi on va voir en fait se développer quelque chose autour de la communauté, quelque chose autour de l'identité, quelque chose autour effectivement d'un groupe. Finalement, qui peut devenir même jusqu'à un certain point un groupe de pression, puisqu'en fait, il y a certaines associations nord-américaines qui disent, en fait, présentons des candidats aux différentes élections, parce que finalement, on représente un autre cas, en fait, comme une espèce d'autre branche, même jusqu'à un certain point, quand on les écoute, de l'humanité, en fait, à un moment donné. Une minorité, c'est-à-dire en fait ils se vivent comme une minorité, comme en fait une minorité ethnique, comme une minorité sexuelle, c'est en fait comme quelque chose qui est finalement un petit peu à la marge. Du coup en fait je me posais la question, ça c'est pour les autistes donc aux États-Unis, ça arrive en France mais un petit peu différemment, c'est-à-dire que les gens commencent à s'emparer en fait les parents autistes, vous savez l'autisme en France c'est une espèce de mosaïque de méthodes. Et avec beaucoup de disputes en fait entre les différents intervenants, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment fixé. Et puis bon, les écoles en fait se font la guerre entre elles en réalité et cherchent à faire valoir l'idée que finalement elles sont dans une situation un petit peu plus finalement plus proche de la vérité que les autres. Donc il y a un espèce d'effet de concurrence. Et puis bon, en fait il y a autant d'écoles que de parents quoi, pratiquement, ce qui rend les choses pas forcément très très simples. Du coup, en fait, la question que je me posais, c'est que, hormis si on retire les autistes nord-américains avec cette espèce de mouvement, je dirais, très, très en pointe, en fait, quelque part, je me suis posé la question de savoir si, finalement, ailleurs, il y avait d'autres types de handicaps qui fonctionnaient un peu de la même manière. Et si on regarde bien, et en fait, si on y réfléchit bien, en fait, on regarde et on s'aperçoit que très vite, oui, il y en a d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez les personnes sourdes, vous voyez bien que là, en fait, il y a quelque chose aussi qui va se passer entre notamment ceux qui vont utiliser en fait la lecture labiale et ceux qui vont utiliser la langue des signes. C'est-à-dire que au-delà en fait du handicap lui-même, on a quasiment en fait au niveau en fait de la surdité quelque chose qui va se passer avec une langue particulière reconnue en fait comme langue quand même depuis 2005, comme langue en fait à part entière depuis 2005, et finalement un territoire que pratique les non-entendants et les malentendants, et puis finalement qui n'est pas compris par ailleurs des entendants. Et je trouve que là aussi il y a quelque chose qui est intéressant, d'autant plus qu'il faut bien voir qu'en fait, historiquement, on sait que les sourds étaient justement placés du côté des débiles mentaux, comme on disait en fait au 19e siècle, et à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et qu'effectivement, là, on les a souvent assimilés en fait aux déficients intellectuels parce qu'ils n'arrivaient pas à, effectivement, entrer en contact et finalement se développer. Ce qui fait qu'au travers notamment du langage signé, il y a quelque chose de l'ordre d'une identité aussi qui est mise en place, très très forte, avec même une revendication du coup, et là en fait en se ressentant effectivement comme une population à un moment donné opprimée, puisqu'il y a eu cette injustice quand même historique qui était relativement forte, et quelque chose effectivement de la constitution d'une communauté, et avec des valeurs très fortes, et quelquefois une fermeture aussi assez forte, de la communauté par rapport finalement aux entendants. Il y a ce film que je trouve charmant, très mignon, qui s'appelle La famille la famille Bélier, on voit cette jeune fille et à un moment donné, la mère regrette presque que sa fille ne soit pas sourde. Quoi. En fait, elle chante et donc je trouve que c'est assez intelligent en fait ce film. Enfin, il est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît. Et je trouve qu'on voit bien en fait cette espèce de relation, cette rupture qui existe finalement entre deux communautés, la communauté sourde et la communauté en fait entendante.
Avec les revendications de ne pas faire le dépistage à la naissance.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on reste sur des choses très fortes. Et même entre ceux qui vont signer et ceux qui utilisent le langage labial, même quelquefois des dissensions qui peuvent être assez fortes dans la manière justement d'appréhender finalement leur relation à la communauté globale et en fait en demandant en fait quelque chose de particulier. Donc on a en fait du côté des sourds quelque chose qui finalement n'est pas inintéressant par rapport en fait à la communauté autiste, avec effectivement peut-être du côté des autistes un engagement beaucoup plus fort, en fait un lobbying beaucoup plus fort, et quelque chose en fait qui est tout à fait intéressant. Alors de là en fait on peut regarder ce qui se passe rapidement, si vous voulez, dans le cadre de la déficience intellectuelle. L'idée effectivement c'est que on est en fait dans le cadre, à mon avis, dans la déficience intellectuelle de cette neurodiversité, avec peut-être quand même des différences qu'il faut quand même noter. Moi j'en ai, comme ça intuitivement, j'en ai noté deux. C'est que la première, en fait, les performances cognitives en fait d'un autiste ou d'une personne sourde, en fait, peuvent être bonnes, voire très bonnes. Si la déficience intellectuelle, on est dans un cadre qui est quand même un petit peu différent et de difficultés peut-être un peu plus grandes. Et puis il y a aussi un autre point qui est important, c'est l'autonomie en fait des personnes en question. C'est-à-dire qu'on peut avoir une autonomie très forte en fait au niveau de l'autisme et au niveau en fait de la surdité. On a une autonomie très forte des personnes, c'est-à-dire alors que effectivement, et pour appartenir à un mouvement parental, je vois bien quand on est en réunion, en fait un regard en fait des parents et des personnes qui sont proches, qui est quand même relativement, en tout cas, un accompagnement et quelquefois je dirais pas un refus de laisser l'autonomie aux enfants, parce que ça se dit pas comme ça, mais en fait une difficulté en fait à laisser l'autonomie en fait aux enfants et ensuite aux jeunes adultes et aux adultes, qui est pas en fait forcément pas forcément évidente. L'intérêt en fait pour moi de l'approche, c'est quoi en fait? Pour être tout à fait clair et pour être relativement synthétique, l'idée qui ressort pour moi en fait de l'autisme, de la surdité un peu moins, mais de l'autisme en tout cas, elle est importante. C'est l'idée en fait d'une continuité. C'est-à-dire que en fait la diversité finalement c'est la mise en œuvre de la continuité. C'est-à-dire que l'idée que j'ai là en fait, si vous voulez, c'est de dire voilà, en fait quand on parle par catégorie, quand on parle par la catégorisation habituelle, c'est quelque chose en fait où on va séparer en fait les différents groupes entre eux. Mon idée en fait là-dessus, c'est que cette idée de neurodiversité amène à l'idée en fait qu'il y a une continuité, qu'il y a un continuum extrêmement fort en fait entre les différentes catégories. Pourquoi une continuité forte? Simplement parce que en fait pour chacun des groupes qu'on a vu là, si on prend les trois groupes, c'est-à-dire les personnes autistes, les personnes sourdes et puis les personnes en situation de handicap mental déficiente intellectuelle, on voit bien en fait qu'on a des degrés. Mais en fait, on n'a pas forcément de rupture. C'est-à-dire que entre la population dite normale, neurotypique, comme disent les autistes, et puis la population en situation porteuse en fait d'un handicap, on voit bien qu'il y a quelque chose en fait de l'ordre d'une continuité. Moi, je pense qu'il y a des populations qui sont à la marge. Je vois bien, si vous voulez, quand on fait par exemple les admissions dans les CESAD, enfin moi je ne les fais pas directement, mais on en parle suffisamment pour que je me rende un peu compte, mais on a quelquefois des cas où on ne sait pas en fait si la personne, si le jeune, si l'enfant qu'on a en face de nous est porteur d'un handicap déficience intellectuelle ou d'un handicap social. On ne sait pas. Et je pense que ça crée en fait une espèce de flou. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une espèce de porosité des frontières en fait entre les différents groupes qui est extrêmement importante. Et il me semble en fait que tant qu'on verra en fait le handicap, si vous voulez, comme une catégorie d'individus, je veux dire, on ne pourra pas faire réellement rentrer le handicap dans l'idée d'inclusion. C'est-à-dire que je pense que ça ne peut pas être inclusif à partir du moment où on reste dans des catégories. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on ne parle plus d'usagers, on parle de personnes. Alors on disait personne accompagnée, maintenant on dit personne. Je trouve que c'est toujours un peu extrême parce qu'il y a un moment donné, on a aussi besoin comment dire, d'un point de vue plus institutionnel, justement, de catégoriser les gens, parce que vous savez que les droits sont ouverts aussi en fonction, en fait, des catégories dans lesquelles vous vous trouvez, qu'il y a des âges, par exemple, où on va se retrouver dans tel type d'établissement et des âges où on va se retrouver dans tel autre type d'établissement, et qu'effectivement, on a besoin, à un moment, de ces catégories, mais que d'un point de vue, si vous voulez, je dirais social, en fait, on a plutôt, pour moi, une espèce de camailleux, en fait, de population, que des populations qui soient réellement, en fait, séparées les unes des autres. C'est pour ça que mon idée, en fait, qui est peut-être une idée simpliste, je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée que j'ai, en fait, par rapport à ça, c'est vraiment l'idée qu'à un moment donné, en fait, on va travailler plutôt sur des nuances d'individus et plutôt que sur la séparation, en fait, de ces individus. C'est-à-dire sur ce continuum qui va, en fait, de la personne dite saine à la personne dite handicapée. Et en fait, quand on regarde la suite des individus, des personnes comme ça, on s'aperçoit que finalement, on a un patchwork, mais on n'a pas, en fait, pas un patchwork, on a vraiment un camailleux et pas un patchwork. Et on a vraiment un camailleux, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui va s'étendre et qui finalement est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus fin en réalité que la réalité des choses telles qu'on aime bien la voir, c'est-à-dire plus tranchée, plus rangée, plus catégorisée, je dirais plus cartésienne dans la manière de voir et peut-être pas assez mobile, je pense, dans la manière de penser les choses. Voilà, je vous remercie.
Merci, merci beaucoup, toi, hein, parce que c'est une ouverture.
Oui,
il faut le dire, si, même si on n'est pas.
D'accord, merci, c'est gentil.
Oui,
c'est vraiment.
Ouais, et qui remet en cause tout le principe de catégorisation de la MDPH.
Là, tu
rien que ça.
Je suis aussi gestionnaire, alors bon, il y a des choses que je ne remets pas en question, mais après, il y a les aspects humains. Quoi. Voilà. Donc,
et en même temps, inscrit ta réflexion dans une perspective interculturelle, sur tout ce que tu dis à la fin, les problèmes de porosité, de continuum entre catégories, etc. Ça, c'est vraiment. C'est deux découvertes relativement récentes, mais elles sont absolument centrales dans la compréhension de l'interculturalité.
C'est bien pour ça que, quand on a commencé à en parler, je me suis dit, il faut vraiment que tu viennes nous le dire.
En fait, moi, j'y avais pas pensé dans ce sens-là. C'est Stéphane, en fait, qui m'a fait penser, parce que moi, j'ai pas les capacités, les ressources intellectuelles, mais pour le faire, je sais pas. Non, je plaisante. Mais en même temps, non, c'est vrai que l'autre fois, quand tu m'as fait venir à Vitry, tu m'as porté là-dessus, et c'est vrai que c'était pas la manière dont je le voyais. Mais c'est vrai, je pense qu'il y a exact. En fait. Le problème, c'est à la base, en fait, tu t'es rapproché d'une de mes préoccupations. C'est-à-dire que, en matière, par exemple, sociale, je pense qu'on sépare. Bon, je pensais déjà qu'on séparait beaucoup les populations et qu'il n'y avait peut-être pas forcément besoin de toujours séparer les populations. Et que l'intervention, en fait, d'un travailleur social, par exemple, n'était pas forcément, à mon sens, toujours spécialisé, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a on a besoin, en fait, de mobiliser certains outils, mais on n'a pas forcément besoin de toujours séparer les choses. Et moi, c'est vrai que je pense que j'ai toujours le sentiment qu'on avait besoin de rapprocher un certain nombre de choses. Et l'autre fois, quand on a discuté, effectivement, et c'est tout à fait sérieusement, c'est à partir de la discussion qu'on a eue, en fait, que ça m'a un peu éclairé différemment. Je pense qu'on est vraiment dans cette diversité. Et je pense que... Alors, je ne parle pas d'interculturel, parce que l'interculturel, pour moi, est vraiment une constitution beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de culture, on est anthropologue, on a quand même on a quelque chose qui est constitué et qui est structuré quand même autour d'un certain nombre de...
Pas forcément. Non.
Moi, je le vois comme ça. En tant que sociologue.
La notion de culture, moi, je l'envisage comme la façon d'être au monde et de se relationner avec le monde.
Alors, oui, comme ça, on peut l'imaginer. Oui. Et c'est vrai que En fait, je vais vous citer un exemple. Il y a aussi un truc sur donc les établissements que je préside. Il y a eu un truc très intéressant. C'est-à-dire qu'on a mis en place, une des directrices a eu la bonne idée de mettre en place des petites commissions, qui sont des commissions mixtes, salariés, parents et les jeunes. Donc les jeunes, à partir du moment où ils commencent à pouvoir causer un peu, 13, 14 ans, 16 ans, et puis bon, voilà. Et en fait, il y avait une de ces commissions qui s'appelait, en gros, et que faire après le CESAD, c'est-à-dire après leur passade au CESAD, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils faisaient, justement, aborder leur vie professionnelle. Et donc, en fait, il y en a deux qui ont eu l'idée. Alors, effectivement, un peu plus performant que les autres, on va dire, ils ont eu l'idée, effectivement, à un moment donné, de dire, on va faire une enquête auprès de nos copains, quoi, donc du CESAD, pour savoir, en fait, ce qu'ils veulent et comment ils le veulent. Alors, évidemment, quand ils ont fait l'enquête, Alors les éducs ont fait plutôt bien leur travail. Ils ont accompagné les gamins, ils les ont aidés à faire leur petit questionnaire. Ils ont été voir leurs copains et donc ils posaient un certain nombre de questions, évidemment autour de tout ce qui les préoccupait. C'est la plupart là, c'était des ados, hein, ados, grands ados ou jeunes adultes. Et en fait, donc ils posaient la question et puis alors on ressortait la vie de famille, les copines, les copains. C'est pas évident hein, pour les jeunes en situation de handicap. C'est peut-être même plus compliqué en l'occurrence pour les autres justement. Peut-être que ça sera une illustration. Et comment dire. Et puis ce qui ressortait, c'était le travail. Et donc tous ont dit unanimement, à un moment donné, fait nous, on ne veut pas de la carte personne handicapée. Voilà, on ne veut pas en fait de ça, on ne veut pas être stigmatisé, mais c'était un choix, hein. C'était pas sur le papier, en fait ils étaient tous à dire on ne veut pas. Et puis donc on ne veut pas, et puis y en a deux qui à un moment donné se retrouvent à devoir aller à Cap Emploi ou à la NPE pour chercher un job, et là le conseiller leur dit vous auriez quand même intérêt à avoir votre carte, quoi, parce que ça serait quand même beaucoup beaucoup plus simple pour vous. Et là en fait ils sont rentrés en disant à leurs copains, il faut changer d'avis. Et il faut qu'on ait notre carte. Et j'ai trouvé ça d'une intelligence absolument totale. C'est-à-dire que ces gamins qui étaient partis sur une espèce d'a priori, on veut être comme tout le monde, etc. À un moment donné, ils élaboraient une stratégie en se disant « Ah ben non, c'est pas la bonne ». Et donc, à partir de là, ils revoyaient le truc et ils allaient dire à leurs potes « Surtout, on fait différemment ». Et j'ai trouvé ça hyper malin. C'est-à-dire j'ai trouvé que ces gamins-là, ils avaient une capacité à un moment donné à comprendre aussi leur environnement, à penser leur environnement. Là aussi où je pense où on les entend pas assez, c'est quand on les écoute. Bon, il y a pas mal de choses qui sont faites autour de ça quand même. Hein, on n'est pas les seuls à le faire, mais quand même en même temps, on voit bien que quand on commence à discuter, il peut y avoir des difficultés en fait de verbalisation. Il peut y avoir des difficultés de structuration du discours. Il peut y avoir des choses comme ça. Mais quand on commence à regarder le fond, on sent qu'il y a, alors le terme va peut-être paraître bizarre, mais on sent qu'il y a une intelligence derrière. Et que, en fait, ça, c'est quelque chose qui me paraît important de réhabiliter ça. Et au travers, si vous voulez, de ce que là, j'essaie d'expliquer, c'est aussi cet aspect-là. C'est pour ça que je disais que c'était aussi pour moi quelque chose qui était de l'ordre peut-être de l'idéologie, de l'éthique vraisemblablement, mais en tout cas de l'idéologie, je pense aussi. Et je crois que, en fait, il y a quelque chose à réhabiliter là, chez les personnes, en fait, en situation de handicap mental. C'est-à-dire que, où effectivement, à mon sens, je veux dire, on est dans un cadre qui est un cadre de personnes qui ont capacité en fait à prendre une place en fait dans la société et à entendre un certain nombre de choses et en tout cas à participer. On parlait d'empowerment tout à l'heure, moi je pense à participer sous cette forme là aussi en fait à la vie sociale.
Je pense que c'est une bonne transition pour le film.
Bah ok. Ouais.